Bonjour et bienvenue dans l'épisode 96 de la Pause Clope.
Salut. Oh, yeah.
T'as pas commencé par la Pause Clope épisode 96, donc ça va pas trop commencer.
Il a paraphrasé.
Ouais. 96,
je fais comme je veux, c'est moi le chef aujourd'hui.
Oui, c'est toi le chef, voilà. JP.
Donc, épisode consacré à Zoulouk, sixième album studio de Jean-Michel Jarre, produit par Jean-Michel Jarre et sorti le 12 novembre 1984 sur le label Dreyfus. Alors, qu'y a-t-il autour de la table? Il y a le chef de d'habitude, Clément. Salut Clément.
Salut JP, ça va?
Ça va bien et toi?
Très très bien, merci.
Bon, nous avons Seb. Bonjour Seb.
Bonsoir, bonsoir. Vous trouverez peut-être que ma voix est un peu différente que de d'habitude, et ce n'est pas parce que j'ai mis mon micro à l'envers, c'est tout simplement parce que j'ai une sinusite.
D'accord.
Qui est descendue plutôt, je ne sais pas, peut-être que j'habite dans l'aube et que je confonds l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être désormais, mais elle est descendue sur mes cordes vocales, voilà.
Mais ça te rend très sensuel en tout cas.
Ouais, ça te va bien, hein. Tu devrais la garder, je pense.
Écoutez.
Effectivement, nous avons donc Pierre à côté. Bonjour.
Bonjour.
Comment
Pierre qui va nous quitter dans une heure, ce qui est à l'école demain.
Voilà.
C'est pas si éloigné de la vérité.
Ça va? Tu vas bien?
Oui, ça va très bien. Ça va très
bon. Eh bien, super. Et donc, nous avons Erwan. Salut, Erwan.
Bonsoir. Salut, JP.
Comment vas-tu?
Ma foi, ça va. Hein. Très content d'être avec vous pour parler d'une belle découverte.
Ah bah super. Alors, vous pouvez nous retrouver sur X Twitter à l'adresse la-pause-clope ou vous pouvez nous retrouver sur Instagram à la-pause-clope-podcast et puis bien sûr sur Patreon pour nous donner des sous afin qu'on descende vos albums préférés, un peu comme ça va être le cas ce soir. Voilà.
On ouvre un OnlyFans aussi, c'est jamais ça.
OnlyFans,
sauf que toi, t'as pas payé.
Non, exactement. On va faire comme d'habitude, hein, on va reprendre les bonnes habitudes du chef, donc on va vous parler top album aussi. Donc le 12 novembre 84 en Australie, il y avait l'album Red Rails in the Sunset de Midnight Oil.
Ah, Beds Are Burning, c'est ça? Ou un peu plus
non, c'est celui d'avant.
C'est celui d'avant, très bien.
C'est celui d'avant. En Angleterre, il y avait du beau monde. Il y avait Welcome to the Pleasure Dome de Frankie Goes to Hollywood. Ah,
super album.
Je connais tout, c'est super.
Grand, grand disque. Mm. Aux USA, encore très grand disque, nous avions Purple Rain de Prince.
Oh,
le qui?
Et donc en France, il n'y avait pas de top album puisque ça n'existait pas à l'époque. Par contre, il y avait des top 50 singles. Et à votre avis, qui était premier?
Bah Prince, grâce à toi, je pense.
C'est quoi en 81, c'est ça?
84.
Besoin de rien, envie 80. De toi, non?
C'est Jean-Jacques.
Joli. Besoin de rien, envie de toi, de Peter et Sloan.
Ah.
Donc on sent le gap entre l'Angleterre, les USA et la France au
toujours
niveau des classements.
Et on sent aussi le chef qui, en fait, a cherché l'info avant parce que c'est lui le chef, quoi.
Non. C'est la première semaine du top 50, donc c'était le premier numéro 1, je crois.
C'est juste qu'il est vieux, c'est tout.
Il y a ça aussi.
Il y a ça aussi, ouais.
Certes.
J'adore
bon,
ça.
Bon, alors, Jarre et Zoulouk, qui connaît? Comment vous avez connu tout ça? Chacun là, qui veut parler, tiens, bah Clément, tiens, si tu veux y aller.
Bah moi, Jean-Michel Jarre, j'ai découvert, je crois que c'est l'un de mes premiers souvenirs musicaux. J'avais 3-4 ans. Et à l'époque, il y avait, enfin, c'est toujours, c'est genre, tu sais, les compilations de tubes sur deux vinyles ou deux CD, Boulevard des Hits et tout ça.
Ah oui.
Et à l'époque, ma mère avait acheté les tubes, machin, tube énergie. Et sur la deuxième face du deuxième disque, ça avait un titre qui s'appelait Calypso de Jean-Michel Jarre.
Ouh.
Voilà. Donc j'ai découvert par ça. Donc c'est pas la plus,
pas par le meilleur,
ouais, pas par la meilleure chanson. C'est un truc vraiment très, bah, très gueulard, très, très festif, très calypso quoi. Et d'ailleurs c'est tiré de l'album En attendant Cousteau, je crois.
Oui.
Et après évidemment j'ai découvert avec Oxygène sur GTA 4.
Oui.
Et évidemment France Info après. Et voilà.
Dac. Erwan.
Bah, j'ai deux rapports à Jean-Michel Jarre. Le premier, comme beaucoup d'enfants, je pense, de ma génération et des autres, je passais beaucoup de temps à zoner sur le Guinness Book des records quand j'étais au CDI. Et il me semble que pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais Jean-Michel Jarre avait le record du concert qui avait regroupé le plus de monde dans le monde. Et du coup, j'en faisais un truc dans ma tête alors que je connaissais pas du tout sa musique. Pour moi, c'était une giga rosta et j'avais jamais écouté ce qu'il faisait. Et ensuite, un jour, je me suis dit, il faut que j'en écoute. Et donc, j'avais écouté Oxygène, qui, je crois, il y a 6 titres sur Oxygène, c'est ça ? C'est Oxygène partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Ouais, mais sur les premiers, c'était que des
voilà.
Nouveaux.
Hein. Et j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Après, ça m'est arrivé de piocher un peu dedans, de découvrir qu'il avait fait des choses. Du coup, effectivement, il est dans la radio de GTA 4. Et jamais, à part Oxygène, je me suis fait un album en entier. Je sais qu'il faudrait que j'écoute En attendant Cousteau un jour, mais c'est pas arrivé jusque là. Mais c'est un personnage pour lequel j'avais beaucoup de respect dès le départ, en fait.
Ouais, moi je veux bien être là pendant que t'écoutes En attendant Cousteau.
Oui, surtout la version CD.
Surtout la version CD.
Bassab, tiens.
Eh bien, écoutez, comment ça s'appelait ? Synthétiseur, les plus grands titres, je crois.
Ouais, bah oui.
Avec.
Pour ceux qui ont connu la naissance du CD.
Voilà. Une compilation avec un gars, je l'ai appris des années après, qu'en fait, c'était pas du tout une compilation des vrais titres, mais c'était un gars qui s'amusait à tout refaire sur ses synthés à la maison. Et plutôt bien, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a certains morceaux qui sont complètement. Impossible à discerner des originaux.
Alors, en faisant attention, si, mais vraiment, c'est très bien fait. Sur certains morceaux, c'est vraiment très bien fait.
Et du coup, tous les morceaux de ce disque sont des morceaux de Jean-Michel Jarre dans mon esprit, même si c'est pas le cas.
c'est comme tous les mais morceaux de piano avec
les chariots
Herman,
de feu, tout ça, c'est Jean-Michel Jarre. Voilà.
D'accord.
Donc les champs magnétiques partie 2, évidemment le quatrième rendez-vous, c'est mes deux morceaux préférés de Jean-Michel. Et puis voilà, en attendant Cousteau, et c'est même pas une vanne. Voilà, j'aime énormément ce morceau au premier degré. Et chacune des secondes, des 46 minutes de ce morceau.
Et ce qui est bien, c'est que tu peux le mettre en boucle et tu t'en rends pas.
Et voilà. et c'est merveilleux. Je me suis mis ça
pour bosser, c'est parfait.
Ouais, mais alors je corrigeais les copies pour la petite histoire, puisque on n'est que pas beaucoup ce soir, donc on va pouvoir s'étaler. Pour la petite histoire, je mettais ça pour corriger des copies parce que ça m'apaisait et ça me permettait de me concentrer. Et un jour, j'étais seul en salle des profs, donc du coup, je m'étais mis ça sur mon ordinateur pendant que je corrigeais. Et puis, il y a un collègue qui arrive et qui me dit, et je lui dis, attends, je coupe la musique. Et il me fait, non, ça ne me dérange pas, tu peux continuer. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit, non, mais en vrai, je veux bien que tu arrêtes.
Il a ouvert la fenêtre, il a commencé à enjamber.
Et alors, Pierre, et toi, comment t'as connu Jean-Michel Jarre?
J'ai connu avec Zoulouk, et puis après j'ai découvert En attendant Cousteau. On a fait une très belle partie de billard là-dessus, et c'était vraiment bien. C'est un morceau qui est très... Je vais pas m'étaler dessus, mais c'est un morceau qui est très, très apaisant, effectivement. Et c'est avec ça que j'ai découvert Jean-Michel Jarre.
D'accord.
Parce que je suis pas,
et bah,
je suis
super.
Pas vieux.
Je veux que tu fasses des bisous. Tu lèches comme si c'était une glace, tu vois.
Ah, il parle du micro, hein. Attends, auditeur, il parle du micro. Alors, on va commencer avec la face A, premier morceau, Ethnicolor, et c'est Pierre qui s'y colle.
Eh ben, ça me fait très plaisir de commencer avec ce morceau, parce que j'ai beaucoup aimé. Dès les premières secondes, l'ambiance instaurée, elle est énorme. Et en fait le morceau il se barre dans une direction à laquelle je m'attendais pas du tout, avec tous mes a priori sur le disque que j'avais avant d'écouter, et même si c'est assez inhabituel d'entendre ça, moi j'en ai quand même des frissons, j'en ai quand même eu des frissons à la première écoute. Je trouve que c'est vraiment un morceau qui fonctionne plus sur l'ambiance que sur les mélodies. Ça commence très bien. Après, il y a un premier gros changement. On passe sur une partie que j'aime un peu moins, mais qui reste quand même super bien, avec des sonorités beaucoup plus numériques et expérimentales qui se marient super bien ensemble, je trouve. Il y a toujours plein de samples de voix, mais qui sont vachement bien répartis sur le morceau. Il y a quelques centaines de FX dans tous les sens aussi, mais pour le coup, eux, je comprends pas trop leur placement. Des fois, t'as un FX en demi-mesure, je sais pas, je vais dire un whoosh. Je sais pas comment dire. Bref, il y a un whoosh en plein milieu et tu sais pas pourquoi il est là, mais bon, ça fait partie du morceau. Donc, et après, il y a une troisième partie. Je dis que c'est la fin du morceau, mais en vrai, c'est à la moitié, quoi. C'est là où commence à y avoir des vrais instruments qui arrivent et pas juste des samples de voix et des synthés dans tous les sens. Donc il y a des batteries, il y a des grosses basses. Je crois qu'on dit que la basse elle est slappée, mais je suis pas sûr du terme.
C'est un bassiste de funk et jazz qui est dessus, donc oui, c'est du gros slap, ouais.
Quand ça fait tang, voilà. Il y a encore plein de synthés pour l'ambiance qui sont super aérés. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. On sent que ça sonne un petit peu vieillot, mais c'est pas trop grave. Il y a toujours des samples de voix étranges, faut pas déconner non plus, c'est un morceau de Zouk. Mais franchement, c'est un très bon morceau pour commencer. Moi, je lui mets un 8, au risque de me faire déshériter.
Ok, merci Pierre. Erwan.
Ouais, il y a quelque chose de vraiment sauvage dans cette première partie de morceau. Pour moi, c'est vraiment c'est l'inconnu quand je lance l'album. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre et je trouve que l'ambiance te saisit très rapidement. Le long synthé en fond, il prend beaucoup de place dans le spectre et quand tu t'y attends pas, bah tes premières sensations, c'est vraiment l'interrogation. Qu'est-ce qui se passe avec ces bouts de voix qui pop de partout, les petits bruits. Donc c'est très intriguant et pour moi, très rapidement, je me suis dit ok, de quoi on va parler ce soir, est-ce qu'on va débattre du pourquoi, du sens et ou même du caractère audible et agréable de ce qui se passe. Mais moi, la première chose que je remarque, c'est que techniquement, rien n'est moche, aucun son n'est moche. Ça peut sonner bizarre, mais c'est magnifique, je trouve que le mix est au poil. Alors moi, j'ai écouté le remaster qui est sur Spotify, donc peut-être que c'est pas forcément le cas dans...
Bon, c'était voilà, déjà le cas sur le disque de
84. Pas beaucoup de doutes. Hein. C'est du miel pour les oreilles, toutes les textures, la spatialisation, tout est audible de la meilleure des manières, et il y a vraiment une harmonie. C'est très orchestral, en fait. C'est pas surprenant chez Jean-Michel Jarre, du peu que j'en connais, mais c'est un point qui est quand même phénoménal, parce que en fait... on a tout de suite la sensation qu'on nous raconte une histoire. Peut-être qu'on la comprend pas immédiatement, peut-être qu'on la trouve bizarre, mais elle s'écoute, elle se chante même, alors qu'on sait que c'est des voix, on comprend qu'elle nous raconte quelque chose, et moi, à aucun moment, je décroche du morceau en me disant « on bite rien, c'est inaudible, machin ». Donc pour moi, c'est déjà une vraie réussite sur ce plan, en ayant le parti pris qu'il a sur cet album. Je me suis un petit peu renseigné, du coup, sur comment il a été conçu, parce que ça m'intriguait, et je trouve que le parti pris est vraiment réussi. Le titre, en plus, prend bien son temps, et moi, je ne sens à aucun moment le temps passer. Sur la deuxième partie, beaucoup plus de structure, plus de repères, c'est plus facile de se repérer. Pour moi, il y a un synthé qui vient clairement d'un album de Woodkid qu'on a chroniqué ici, hein, c'est-à-dire qu'il y a une filiation évidente entre Woodkid et Jean-Michel Jarre quand on écoute un synthé comme ça, mais je pense que de toute façon, Jean-Michel Jarre a influencé tous les gens qui un jour ont fait du synthé en France depuis 40 ans. Il y a un parti pris qui, moi, me plaît et sur lequel je m'attarde juste pour terminer, qui est qu'on retrouve sur les deux parties, mais qui est plus flagrant sur la deuxième. Ce parti pris de faire des voix, même samplées, même déformées, des éléments rythmiques comme ça, presque percussifs vraiment par moment. En fait, c'est fou parce que moi, j'ai pas les connaissances pour estimer à quel point c'est novateur à l'époque, mais aujourd'hui, c'est terriblement actuel. C'est quelque chose qui revient énormément. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des producteurs faire des morceaux dans lesquels toutes les structures rythmiques sont soit des instruments mélodiques détournés, soit des voix détournées, soit des bruits entre guillemets qui sont pas faits pour ça. Et je trouve que sortir ça dans les années 80, c'est incroyable. Donc voilà, la fin est magnifique. Moi, pour moi, c'est un 8 sur 10 sans hésiter. Je trouve pas que ce soit le meilleur morceau de l'album, mais c'est une pièce maîtresse d'entrée.
Ok, merci. Clément.
Oui, alors Zouk, ça a été l'album de convalescence. Si vous vous souvenez bien, il y a 5 ans, je m'étais pété la gueule en sortant de la douche.
Oui.
Donc je suis sorti après 6 semaines de alité et je faisais du sport à l'époque.
Johnny.
Voilà, ouais, Johnny alité, évidemment. Bravo. Et je faisais du sport avant et du coup, pour reprendre le sport, j'avais mon casque. Et là, je me suis dit, putain, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté un album qui pourrait me mettre la pêche. Et là, j'ai mis Zoulouk de Jar. Donc là,
pardon, c'est une vanne et j'ai oublié de rire.
Ah, pardon. Et je me mets sur le vélo elliptique et je commence à lancer Ethnicolor. Et là, tu arrives sur une nouvelle planète. Tu as l'ambiance, comme disait Erwan, l'ambiance, elle est dès le début, seconde 2, seconde 3. Tu as une sensation de majesté avec toutes les voix qui arrivent derrière. T'es vraiment sur une planète, t'es là, tu sais pas ce que tu vas avoir, mais tu découvres les voix les unes après les autres. Et oui, c'est un film sonore en 3 parties, donc t'as le démarrage, t'as la mise en tension, et à la fin, évidemment, la libération avec tous les instruments, avec évidemment Marcus Miller, dont on va parler un petit peu plus, donc bassiste de Miles Davis, et entre autres, mais et aussi de Billy Cobham, je crois, à un moment. Enfin bon, il a joué avec tout le monde.
Il a joué avec
voilà,
beaucoup de monde.
Voilà, et avec aussi Brian Ferry pour le live, il me semble. Et comme tu l'as dit aussi, Erwan, le mix est parfait. Donc, et aussi, évidemment, prendre des voix pour faire les percussions, c'est très actuel. Et en 84, évidemment, c'est novateur. Donc pour moi, c'est un 9 sur 10, parce qu'il y a mieux après.
Ok, Seb.
Moi je trouve pas ça du tout novateur en fait. Pour moi, c'est juste un gars qui a pris un Fairlight et qui s'est amusé avec. Et il avait juste la chance, c'est le deuxième au monde à avoir acheté un Fairlight, et c'est tout quoi. Il y a aucun talent dans ce disque. C'est juste le gars qui sample des machins et qui joue avec. Bref, Ethnicolor, c'est un morceau en 3 parties. En vrai, ça commence plutôt bien. Je suis d'accord avec vous, il y a une nappe atmosphérique qui est très sympa. Et puis, il commence à y avoir des sons random un peu partout. Et là, mais j'ai mes sourcils qui commencent à froncer. Et puis après, t'as la catastrophe, quoi. T'as la mélodie principale. Bon, elle est jouée avec un doigt sur le clavier, on s'en fout. C'est pas grave, mais elle fait tutut. Putain, c'est tutut. C'est horrible. Mais quel manque de goût. Franchement, avoir sorti ce son, et puis c'est pas fini en plus, parce qu'après il y en a plein. La deuxième partie, c'est pas compliqué, il se passe rien, donc comme ça c'est pratique. Et la troisième partie, je vais pas mentir, elle est cool. Soyons honnêtes, quand la batterie et la basse arrivent, même s'il y a toujours les sons random de partout, il se passe quelque chose et on a un synthé qui fait une mélodie, qui crée quelque chose de sympa, d'assez puissant, et même à la limite d'être épique, et ça sauve vraiment le morceau. Mais voilà, 6.
Ça va.
Okay. Oh là, cette sentence.
Il met 6 comme si c'était une sanction. C'est souvent c'est mes meilleures notes.
Non, mais je mets 6 parce qu'il y a la dernière partie qui est cool.
Ouais, bah pour moi c'est le meilleur morceau de Jar en fait. En fait, mélodiquement ça reste toujours hyper simple. C'est du Jar. Il a jamais fait des mélodies compliquées. Ça a toujours été le cas. Alors des fois ça le dessert parce que sur des trucs comme Calypso ou tout ça, c'est vrai que c'est à la limite du supportable quoi. Mais je trouve que là ça fonctionne super bien parce qu'en fait il y a un travail de dingue derrière sur la matière sonore quoi. C'est-à-dire que c'est pas la mélodie qui est importante là, c'est vraiment le travail sur le son, aller sculpter le son, aller choper des voix et la travailler.
Il a utilisé un Fairlight. Arrête.
Bah oui, bah utiliser un Fairlight, c'est sculpter le son.
Bah surtout si c'est le deuxième à l'époque au monde à l'utiliser, quoi.
Oui, c'est ça.
Il l'a poussé dans ses derniers tranchements, le Fairlight. C'est-à-dire qu'il,
alors,
il
si
a,
tu veux quelqu'un qui utilise bien un Fairlight, tu vas écouter PG3 et PG4, mais pas ça.
Ah bah, il les utilise très très bien aussi, oui, je dis pas le contraire. Simplement, je trouve que le travail qu'il a fait, c'est un travail qui avait jamais été fait avant. Et il l'a poussé au max, quoi. C'est un morceau, en fait, qui est vraiment manifeste pour tout le disque, qui donne vraiment ce que va être le disque, c'est-à-dire un travail sur la texture sonore, sur la voix, comment la triturer, comment la transformer, comment lui donner un aspect mélodique, rythmique, et comme tu disais, Erwan, un aspect percussif par moment. Donc, il y a un boulot de fou, en fait, là-dessus. Il a mis 4 mois à mixer le disque, et tu comprends, quoi. Mmh. 4 mois à le mixer, il a mis 2 ans à le faire parce que entre récupérer les trucs, les triturer, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait et il a bossé comme un dingue là-dessus. Je trouve vraiment que en plus avoir mélangé ça avec des instruments live, la basse de Marcus Miller qui pour la petite histoire en fait a été resamplée derrière pour pouvoir être intégrée dans le disque parce que sinon elle sonnait trop propre.
Je suis pas surpris.
Il fallait qu'il la retravaillait pour qu'elle puisse s'intégrer dans le mix. C'est une super idée d'avoir mélangé les deux, du coup. Et donc voilà, pour moi, c'est un morceau absolument fabuleux, c'est épique, ça dure 10 minutes et on va l'écouter. Voilà, c'était Ethnicolor. On passe au deuxième titre de la face A, et dernier titre de la face A d'ailleurs, qui s'appelle...
Déjà,
oui.
On va faire le jeu au bout d'un quart d'heure d'épisode.
Voilà, qui s'appelle Diva, et c'est Erwan qui va commencer.
Va.
Bah, j'ai beaucoup d'amour hein, pour ces sons de plomberie. Qui, dès le début... En fait, ils me font... ce que j'aime bien, c'est que dès le début... On te dit oui, ok, on va rester quand même dans la même DA, dans les mêmes intentions, mais je vais pas te servir la même soupe à chaque fois, parce que regarde ce que je suis capable de faire. Alors, point négatif, c'est un morceau qui donne un peu envie de pisser, peut-être déjà annonciateur de, voilà, de la popularité à venir de la ASMR partout en France.
Moi j'y vais, mais... moi sur ce.
Mais c'est surtout un morceau, je trouve, plus inquiétant, au moins dans sa première partie en tout cas. Donc une autre atmosphère, j'ai pas grand chose à rajouter sur le plan technique parce que effectivement la réalisation va être sensiblement proche un peu sur tout le disque, dans les intentions en tout cas. Moi le problème que j'ai avec le disque, il commence sur la deuxième partie de ce morceau, parce que j'apprécie beaucoup l'idée d'arriver à chaque fois à faire d'un morceau ou au moins d'une partie d'un morceau un truc qui serait un tube, c'est-à-dire constitué comme un morceau pop vraiment, mais moi la tropical pop comme ça c'est pas mon dél, je trouve qu'il y a vraiment un délire tropique dans les rythmes et dans les mélodies, et du coup, voilà, c'est de l'époque, c'est un peu fun, en vrai, c'est pas ma partie préférée, je mets 5, je descendrai pas en dessous sur l'album, donc globalement, j'ai un peu tout apprécié, parce que je comprends le choix, et j'apprécie l'intention, mais c'est juste, c'est pas mon registre, quoi, donc j'ai mis 5.
Ok, merci. Pierre.
Ouais, je suis bien d'accord avec Erwan sur le côté de l'ambiance qui est beaucoup plus pesante. Alors moi j'ai trouvé que c'était une horloge dans le fond du tout début du morceau là, qui te met la pression avec une voix qui dit des trucs aléatoires de gauche à droite là. Par contre je trouve que ça dure des plombs pour rien. Et quand ça part enfin après 3 minutes après 3 minutes presque vide, en fait c'est encore pire après. Il y a toujours les samples de voix qui sont beaucoup plus présents sur le morceau, et là je reconnais qu'il y a beaucoup de travail là-dessus, parce que quand même pour arriver à couper toutes ces voix et à faire en sorte que elles sonnent bien entre elles, j'imagine que ça a dû demander un sacré taf. Mais là où je peux pas, c'est les synthés choisis. Il y a une espèce de flûte de pan qui arrive au bout d'un moment, et c'est juste pas possible. ça fait vraiment vraiment très très cheap, ça a vraiment pas bien vieilli, je trouve. Il y a pas grand chose de plus subjectif que ça, mais j'ai l'impression que ça a été fait exprès d'avoir des sonorités aussi peu gracieuses. Parce qu'à côté de Zulouk, il y a Omadone qui est sorti 10 ans plus tôt et qui est beaucoup 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 plus beaucoup, je vais dire cohérent, même si ça veut rien dire, mais beaucoup plus propre et beaucoup plus joli en termes de sonorité.
Mais sauf que après, c'est pas du tout le même principe. T'étais sur des claviers analogiques sur Omada, on est là, t'es sur du pur digital, donc ça n'a pas grand chose à voir en faire en termes de son.
Pas digital. Digital, numérique. Ça veut dire doigt.
Numérique. Non, mais enfin, il aurait quand même pu choisir autre chose que cette. Je sais même pas ce que c'est. C'est pas beau. C'est tout. Par contre, je reconnais qu'il y a vraiment des bonnes idées sur le morceau. À la fin de la... je vais appeler ça une première partie, même si c'est pas du tout une première partie, parce que la deuxième partie, c'est à la fin du morceau, mais... à un moment, il y a une guitare qui rentre. Enfin, je sais pas si c'est une guitare, mais bref. Il y a un truc qui ressemble à une guitare qui rentre, qui, c'est vraiment magnifique, avec la batterie, des gros fils sur les tomes et tout, et ça, c'est perfusion intraveineuse directe. Je trouve ça juste magique. Mais... c'est dommage que ce soit qu'une petite partie de la chanson et pas un vrai concept, alors qu'à côté il y a la flûte de pan, que je trouve absolument horrible. Et après il y a la deuxième partie qui était pas vraiment nécessaire, je trouve, parce que c'est la même chose tout du long, et bref, moi je vais mettre 4 pour la partie guitare batterie, mais je me trouve généreux compte tenu du fait que je trouve que tout le morceau soit pas fou à côté.
Ok, Clément.
Bah, je vais remettre à 9. Hein. oui, le début, c'est... je parlais de planète. Le début de Diva, c'est les sous-sols de la planète. Tu sais, tu rentres, il y a de la pluie, tu rentres dans la grotte et tout. Et j'aime beaucoup cette partie, deuxième partie, un peu enjouée et enfantine. C'est très enfantin, le ta-ta-ta-ta. Et c'est très 80, évidemment, c'est très daté. Mais c'est très France de Mitterrand, quoi. C'est, voilà. C'est, voilà.
Donc, pas c'est n'importe quelle France, la France voilà. De François Mitterrand.
Voilà. Voilà, et c'est un film, c'est un titre électropop très accessible, donc rien à dire. Ça se traîne un petit peu en longueur, mais c'est pas grave, donc quand même 9 sur 10.
9 sur 10, parfait. Et ben moi, je vais mettre un petit 8 là-dessus. Je trouve que c'est encore un très gros travail sur la voix, et donc il a demandé à Laurie Anderson de venir faire les voix. C'est la seule personne qu'il a enregistrée spécifiquement pour le disque, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient été collectés des voix un peu partout dans le monde. Là, il l'a vraiment fait venir pour enregistrer ça. Et il y a quelque chose d'assez logique, puisqu'en fait, elle avait enregistré 2 ans auparavant un album qui s'appelle Big Science, qui était déjà un travail sur les voix, et je crois qu'elle avait déjà commencé à utiliser le Fairlight à ce moment-là. Et donc, il y avait une filiation logique pour la faire venir sur le disque. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et la première partie, vraiment atmosphérique, qui débouche sur une deuxième vraiment plus joyeuse, qui est effectivement un peu légère, comme souvent les morceaux un peu joyeux de Jarre sont un peu trop joyeux le plus souvent, et ils ont des mélodies un peu plus simplettes, mais le travail sur la matière vocale sur le morceau est fou, quoi. Et encore le mix est dingo, la manière dont ça se balade partout là, c'est du bonheur. Donc ça prend 8 pour moi. Et ben on a déjà fini la face A.
Ah, et donc tu veux vraiment pas me donner la parole en fait.
Oui, c'est pour ça.
T'as pas eu... Ah, je t'ai oublié, mais je croyais que je t'avais donné la parole déjà.
Mince alors.
Ah, je pensais que c'était fait exprès.
Ah non, pas du tout. Je pensais vraiment l'avoir donné.
Ok, alors c'est Pierre alors.
Voilà. Okay. Donc, non, tu Pierre, veux quand même, c'est à côté de toi.
C'est Pierre.
Alors c'est
donc, tu veux quand même. Tu veux quand même
ouais. Ah bah oui.
Bon, bien, Diva. Alors écoutez. Va. Là aussi, ça part plutôt bien. J'adore les trucs ambiants. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les trucs ambiants. Et même les voix random de la première partie, je peux m'y faire. Alors, elles contribuent super bien à l'ambiance, même si, je vais être clair, hein, je les trouve horribles. Mais par contre, la deuxième partie, c'est non, quoi. C'est un non franc et massif. Non, mais franchement, qu'on lui enlève son Fairlight, quoi. Il y avait Jean-Michel Yaourt, Jean-Michel Satur, Jean-Michel C'est à vous, et maintenant, il y a Jean-Michel Fairlight. Quoi. Non, il n'y a rien qui va. Sans déconner, il n'y a rien qui va. Les voix utilisées comme percussion, la mélodie de synthé moche, et surtout Laurie Anderson, c'est nul. Mais c'est nul. J'ai l'impression d'assister, vous savez, à une représentation de musique contemporaine au Festival d'Avignon où les artistes, entre guillemets, font n'importe quoi et on leur dit « Oh, c'est génial, oh, c'est tellement merveilleux, ma chérie, tu es magnifique. » Et ben voilà, c'est pareil, c'est n'importe quoi. 4 sur 10.
T'aurais dû inviter Jean-Jacques pour cet album, je pense.
Et j'ai failli inviter Jean-Jacques.
Ah, parce que là, t'étais à deux doigts de partir en mouillette. Hein.
Ok, bon, ce coup-ci, on a vraiment fini la face A. Un petit
après,
quiz
après 18 ouais. minutes, ouais. Oui.
18 minutes
ouais, ouais, ouais.
La seconde partie, elle va être longue.
Non, ça va aller vite.
Ok, on est parti. Alors, un petit quiz. Donc, première question. Deux morceaux de Zoulouk sont issus du cinquième album de Jean-Michel Jarre, Musique pour Supermarché.
Mais franchement, ça s'invente pas, hein, Musique pour Supermarché.
Quelle est la spécificité de cet album?
Il a été produit en un seul exemplaire, je crois.
Oui, voilà, exactement. Et en fait, c'était une musique pour une expo.
C'était tellement nul que personne...
Et il en a fait un seul exemplaire et détruit la matrice juste derrière.
Et je crois qu'il y a eu un bootleg, genre Jarre avait diffusé l'album sur une radio pour que les gens piratent derrière et avoir une trace audio de l'album.
Ouais, exactement. Alors, sur cet album, Jarre fait usage intensif du sample. La majeure partie sont des samples qu'il a lui-même réalisés ou qu'il a fait réaliser par des gens autour de lui. Mais Jarre est connu aussi pour utiliser les presets d'usine sur ses albums. notamment Révolution, toute la première partie de Révolution, ce sont des presets d'usine de je sais plus quel synthé, mais c'est impressionnant en fait. Tu navigues dedans et tu refais le morceau.
Ouais, c'est pour ça que je te dis, le mec il bosse pas quoi, il achète juste des synthés parce qu'il est riche et puis pouf.
Bah, voilà, en l'occurrence là, si, il a fait beaucoup de travail. Donc le Fairlight possédait aussi des sons démo, et dans l'album on entend plusieurs fois un sample de Rire. Et notamment sur Diva, on l'entend plusieurs fois. Et c'est un son démo qui s'appelle Bizarre. Et savez-vous d'où provient ce sample ?
D'un film ?
Non.
Ok. C'est le gars qui a inventé le Fairlight et qui s'est enregistré lui-même ?
Non.
Est-ce que ça vient d'une autre chanson ?
Oui.
Ah, Message de Grandmaster Flash ?
Non.
Non, ok. Donc une autre chanson très connue ?
Non.
Ah d'accord, ok, non. Okay. Donc je pense que ouais, on pourra pas trouver
c'est
alors.
C'est un quiz de JP, évidemment qu'on va avoir des trucs qui sont pas connus.
Alors je vous le donne, c'est tiré de Our Bizarre Relationship de Frank Zappa and the Mothers and Dimension, tiré de Uncle Meat.
Ah, ok. Donc Frank Zappa, deuxième point JP de la soirée.
Voilà. Et ce sample se retrouve sur d'autres disques, bien sûr, parce que c'est un sample qui a été beaucoup utilisé. Et il y avait un mec qui l'aimait tellement qu'il l'a mis dans 5 chansons en moins de 3 ans, entre 86 et 88. Et quel est cet artiste ?
Prince. Connu ?
Eh oui, c'est Prince.
Ah, c'est Prince. Artiste connu ?
Enfin, c'est le JP Cinématique Universe.
Alors,
trop facile.
Chez Jarre, on trouve aussi des guitares des fois. Et il y a un guitariste français qui l'a accompagné longtemps. Savez-vous qui ?
Paul Person ?
Non.
Yarol Poupeau ?
Non.
Alors, moi, je savais qu'il y avait, s'il y avait Adrien Belou, mais...
Non, guitariste français.
Il n'est pas français. Oui, mais du coup, il n'est pas français. Oui.
Aubert ?
Non. C'est un guitariste guitar-héro qui ne chante pas, hein, qui est vraiment que guitariste.
Ah,
Nono ?
Non.
Vraiment,
Jean-Félix Lalanne ?
Non.
Moi, je sais, mais je vais vous laisser deviner.
Il est encore actif aujourd'hui ?
Je sais pas s'il est encore actif. Il est plus avec Jarre. Ça fait un moment qu'ils ont pas joué ensemble. Mais il a été aussi sur ses tournées et tout ça. Hein, donc,
Patrick Ronda.
Ouais, Patrick Ronda. Ah ouais, Ronda.
Je risquais pas de trouver parce que je ne connais pas.
Parce que c'est le seul guitariste non vocaliste que je connais français. C'est juste ça.
Effectivement, c'est Patrick Ronda qui l'a accompagné depuis Calypso, je crois. Depuis En Attendant Cousteau, de mémoire. Voilà, alors lors de sa tournée de 2009, Jarre a établi un record. Lequel ?
Bah du coup, c'est le concert avec le plus de monde, non ?
Ouais, le record du concert avec le plus de spectateurs.
Mais c'était énorme, les photos du concert, elles sont lunaires.
Alors ce concert a eu lieu à Beijing. Pouvez-vous me dire combien y avait-il de spectateurs à 10 000 près ?
10 000 près ? Putain,
sachant que
Genesis a fait 500 000 à Rome en 2007. Ça doit
c'est
être
600
ou
650 000.
Non.
Moi je dirais 3 800 000.
T'es pas loin, c'est 4 millions.
Ah. Ouais. Je voulais dire un truc en millions au début et je me suis dit non, c'est pas possible.
C'est énorme, 4 millions. J'arrive même pas à me représenter.
Et, la Chine, c'est grand, il y a la place.
Ouais, ouais. Et ça. Savez-vous qui détenait ce record précédemment ?
Metallica ?
Non.
Moi je dirais Jarre.
C'était Jarre avec 3 millions 5 à Lyon en 91.
À Lyon ? Ah putain, ouais. 3,5 millions, mais tu les mets où à Lyon ? C'était où ?
Bah, Place Bellecour.
Ah, ouais. C'était dans
un petit
Lyon,
peu à
fait,
côté du cheval.
Il y avait des projections partout, dans toute la ville.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Et c'est pas là où ils avaient fait une version d'En Attendant Cousteau qui durait 2 heures, qu'ils avaient diffusé dans les rues de la ville avant ? C'était peut-être pour la Défense.
C'est la Défense, je crois. Je crois que c'est la Défense.
C'est peut-être à la Défense.
Voilà, on a fini le petit quiz.
Merci JP.
Merci beaucoup.
On va attaquer la phase B avec le morceau Zoulouk. Et c'est Seb qui va commencer.
Mais brûlez ce Fairlight, putain !
Ah, Jean-Jacques, félicitations.
Voilà ! Le backing track, il est juste insupportable. La mélodie principale qui est encore jouée avec un son super moche. J'ai envie de m'ouvrir les veines, mais je me rappelle que j'ai les oreilles qui saignent et que c'est probablement pas une bonne idée pour ma santé d'avoir tant d'hémorragie en même temps. 4 sur 10.
Wow. Okay. Quelle j'ai mis un point de plus et j'aime vraiment un peu le morceau. Non, en fait, moi j'ai une petite frustration parce que bah, on va revenir sur une question de registre, encore une fois, comme sur la deuxième partie de Diva, le registre là me parle pas trop. Et en plus, l'intro me donne vraiment envie que ça parte en grosse techno. Donc j'ai un peu une frustration quand je me rends compte que c'est pas ça. Je trouve quand même que dans cet arpège où les voix sont utilisées pour, enfin, les voix sont constituées un arpège, je trouve qu'il y a vraiment de la chirurgie dans le dosage d'effet, l'échantillonnage. En fait, il est vraiment parfait à une époque et sur un instrument que personne maîtrise vraiment encore. Lui, il a...
à part Peter Gabriel, mais
voilà, mais je veux dire, ils sont, tu peux les compter sur les doigts d'une main, quoi. Et
étonnamment, lui... il y avait Balavoine qui s'en servait bien.
Oui, il y a une très belle vidéo de Balavoine qui, oui. Qui découvre les fonctionnalités du truc et qui compose... Comment elle s'appelle la chanson?
C'est Tous les cris des SOS.
Ouais, Tous les cris des SOS en mettant du merdier dans l'intro. mais non, en fait, je trouve que c'est, l'échantillonnage est vraiment juste parfait pour que ce soit pas gênant d'avoir ces voix en arpège. On sait que c'est des voix, mais on peut quand même les accepter comme des notes. Mais pour autant, je trouve que ce titre, il se chante. Et c'est fort. Ce morceau se chante. Et c'est, ça reste fort. Après, toujours le même pas regret, mais la même réticence pour moi sur le registre. Donc je reste à 5, mais techniquement, encore une fois, c'est une prouesse.
Ok, merci. Clément.
Moi, je mettrais 8 sur 10. C'est l'un des titres que j'aime le moins, même si je l'aime beaucoup. La boucle est imparable. Le riff de synthé, il est simple, super efficace et... même le début, j'ai l'impression, tu sais, vous connaissez les boules rebondissantes un petit peu qui partent un peu de partout. Genre, on dirait Jean-Michel Jarre qui a mis plein de trucs dans sa cuisine, il a balancé la boule et ça va être... Et ça fait un peu ça. Et oui, à un moment, ça fait très pilote automatique, donc c'est pour ça que je mets un point de moins. Mais ça reste, le travail des soins est encore assez fou, donc 8 sur 10.
Mais vous vous rendez compte
qu'avec arrêtez de parler
ça,
de
est...
travail, quoi.
On est 30 ans avant Monsieur Oiseau, quoi.
Ouais, c'est
je
ça.
Je trouve ça lunaire.
Pierre.
Ouais, là ce qui est dommage c'est que je trouve plus rien de ce que j'aimais bien dans le premier morceau. Autant Diva, on pouvait encore retrouver la batterie là, mais là c'est devenu alors je suppose que c'est une boîte à rythme, j'en suis pas sûr, mais en tout cas ça marche moins sur moi. Les synthés d'ambiance qui donnaient une giga profondeur au morceau sont soit devenus surabondants soit inexistants, et c'est dommage. La flûte de pan super moche fait son grand retour et elle amène avec elle, entre autres, le synthé-voix qui fait poing poing et celui qui fait tududum. Il y a une partie au milieu où tout se calme et que je trouve vachement cool, qui sauve clairement le morceau. Mais malheureusement, ça dure pas longtemps avant de repartir sur l'enfer qui était le début du morceau. Il y a encore une fois, il y a des bonnes idées, mais bon, par exemple, j'aime beaucoup la suite d'accord, mais c'est pas suffisant. Et je vais mettre 5.
Ok. Et ben moi, c'est mon single préféré de Jarre.
Ah, d'accord.
Vous pouvez s'en douter. Hein.
Voilà. Je trouve que c'est totalement dingue entre le travail sur le, pareil, toujours sur les voix, là, la voix elle fait tout, elle fait la percussion, elle fait la mélodie, elle fait le rythme, elle fait tout, et puis t'as Marcus Miller qui apporte une petite touche de groove par dessus avec sa basse en, là au milieu, ça, je trouve ça comme single c'est parfait, donc pour moi ça prend 10. On passe au morceau suivant, Woulou Moulou. Et c'est Clément qui va commencer.
Woulou Moulou. Pardon, c'était trop tentant. J'aime bien. C'est...
Est-ce que quand tu fais Woulou Moulou, c'est de l'appropriation culturelle?
Ah, je sais pas.
je pense pas. Je propose qu'on en parle une heure entre blancs.
Voilà. oui, c'est l'ambiance sonore entre Alien et 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est plus industriel, c'est plus tribal. Tu changes vraiment d'ambiance et j'ai l'impression d'être dans un tambour de machine à laver sous acide. D'un moment, ça va vroom, vroom, vroom. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, 9 sur 10.
Ok, Pierre.
Moi.
Oui, il n'y en a qu'un, a priori.
Ouais, présent. bon, là, ça se calme un peu et je devrais être content, sauf que, bon, je sais pas vraiment si dire que ça a mal vieilli est correct ou pas, dans le sens où j'ai aucune idée de si c'était déjà bien à l'époque et c'est devenu moins bien avec les avancées qui ont été faites à ce niveau, ou si ça a juste jamais bien sonné. Mais pour moi, ça marche pas. Bon, encore une fois, c'est très subjectif, mais je pense que si cette chanson elle avait été faite avec des meilleures sonorités, j'aurais beaucoup plus apprécié le morceau et pouvoir l'apprécier et rentrer et vraiment rentrer dans le délire. Mais là, ça prend pas. Encore une fois, j'aime beaucoup les accords, j'aime beaucoup les idées, mais j'arrive pas à me dégager de la tête que c'est des sonorités. C'est des sonorités qui sonnent trop vieilles pour moi. Et bon, ouais, je vais mettre 6 parce que j'aime beaucoup l'idée derrière, mais ça prend pas assez.
Ok, Seb.
Alors, Woulou Moulou. Déjà, si on n'avait pas compris qu'il se foutait de notre gueule avec cet album, je pense que le titre de ce morceau devrait finir de nous convaincre. C'est pas compliqué, j'en retiens rien. Il se passe rien, mais en plus de ça, ça se passe mal. C'est juste un gars qui appuie sur des touches de son clavier et qui fait des boucles. C'est pas avant-gardiste du tout. C'est juste un gars qui a eu la chance d'être le premier à avoir un Fairlight, quoi. 3 sur 10.
Mais il faut le faire, le truc. Il faut bien qu'il fasse sa matière.
Sans déconner, ça me fait penser à mes morceaux à moi. Quand je fais des trucs, je prends des machins, j'ai un nouveau VST ou j'ai un nouveau plugin, je m'amuse, je fais des sons, machin. Mais moi, j'en fais pas un disque derrière parce que c'est de la merde. C'est tout.
Erwan.
Moi je trouve que Clément utilise un mot qui est très juste quand il parle d'industriel. C'est un titre qui sent l'usine, ça c'est un titre qui sent la machine, ça, avec la basse qui descend, qui tape en boucle, c'est de la ferraille ça. Et j'aime beaucoup, c'est encore une fois, ça véhicule énormément d'images, c'est presque science-fiction. Et voilà, sans reparler, je vais pas parler sur tous les morceaux du côté technique, etc. Là, je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère, il y a des images. J'ai mis 6 au morceau. Je trouve, en plus, du coup, il me véhicule plus de choses que les deux précédents. Donc, il prend 6.
Ok, moi je vais mettre 8. Et en fait, effectivement, c'est très cinématique comme morceau. C'est un peu inquiétant et il s'intercale bien entre les deux morceaux voilà, qui sont autour, quoi, parce que du coup, ça ramène un peu de noirceur. Et puis, il y a toujours ce travail sur la voix, comment on la traite, comment on l'intègre, quels effets on lui met pour qu'elle donne quelque chose encore de différent. Là, il utilise un delay super long sur la voix, ce qu'il avait quasiment jamais fait. Les sons étaient vachement plus secs jusque-là. Enfin, il s'amuse toujours avec la matière qu'il a et il propose un morceau qui est vraiment quelque chose d'atmosphérique, moi, qui fonctionne super bien sur moi. Donc voilà, ça prend 8. On va passer à Zoukology et c'est Clément qui va commencer.
Ah, les nostalgiques de Canal+ s'en souviendront, c'était le générique de Zénith avec Michel Denisot. Ouais. En 84, 85, 86, bah, peut-être 6 mois après la sortie du titre. Donc quand Canal+ avait fêté ses 20 ans, c'était en 2004, il y avait genre tous les canaux numériques avaient fait des rediffusions des émissions de l'époque et c'est comme ça que j'ai découvert que Zoukology était le générique de Zénith. Et avec le clip, évidemment, l'imprimante qui lag et tout, c'est pop électro dans son jus, ça fait penser évidemment à un autre tube de l'époque, Rock It d'Herbie Hancock.
Oui, exactement, j'ai noté aussi, voilà. C'est vraiment dans le même esprit. Ouais.
Voilà, et les claps m'éclatent. C'est genre, ils sont de partout, et s'il n'y en avait pas assez, il en faudrait en rajouter, et c'est trop bien. Donc j'adore, donc 10 sur 10.
Ok, Erwan.
Bah, pour moi, c'est le vrai tube de l'album, je trouve. C'est le meilleur morceau, à mon sens, de l'album, au sens où il allie la prouesse technique et l'aspect le plus largement écoutable par un public le plus large possible. Je trouve que, en fait, c'est un vrai morceau de synthwave club. Oui. Avec cette base de jeu vidéo, avec ces percus là très clairs, très dans les aigus, avec qui s'étale beaucoup, c'est vraiment ma cam. Il y a un drop, il y a beaucoup de texture dans les voix. J'ai la sensation en l'écoutant, et peut-être que c'est pas vrai parce que parfois des choses qui paraissent plus pures sont en fait plus compliquées à faire, mais moi j'ai la sensation en l'écoutant que c'est sur ce morceau que le travail des voix a été le plus important. On sent beaucoup de travail dans les ondes et dans les textures. Donc je suis à 1000% dans ce train-là, je l'écoute vraiment par plaisir et je le réécouterai vraiment par plaisir. Il rentre dans mes playlists facilement, il se chante, c'est un 9 sur 10, c'est extraordinaire de faire un morceau comme ça.
Ok, Seb.
Alors, ça semblait bien partir, hein, parce que la basse et la batterie, elles font du bien, on va pas se mentir, là encore. Mais non, il faut encore qu'ils choisissent un son de synthé lead absolument dégueulasse. Voilà, bon... Bon, la mélodie, elle est toute simple. Encore une fois, c'est une mélodie qui joue avec un doigt. C'est absolument pas un reproche. Hein. C'est juste pour donner une idée pour ceux qui connaissent pas. Mais moi, ce qui m'embête, en fait, et au-delà du fait que le son de dégueulasse me sort du morceau, c'est que pour moi, la mélodie, c'est un brouillon pauvre et raté de ce que sera le quatrième rendez-vous plus tard. Donc voilà, je peux pas m'empêcher d'entendre ce morceau sans me chanter la mélodie de quatrième rendez-vous, et ça me fait chier. Donc voilà, je mets 5 pour la section rythmique qui est géniale.
Ok, Pierre.
Ouais, non, moi j'aime bien. Bon, on sent encore qu'il y a des sonorités un petit peu vieillottes, mais c'est pas sur ce morceau-là, ça me dérange beaucoup moins que sur. Par exemple Wulumulu, mais ouais, la basse je la trouve un petit peu vieillotte, mais sinon tout le reste c'est vraiment très, vraiment beaucoup plus abordable pour moi que le reste de l'album. Bon, vous avez déjà tout dit, mais moi je vais mettre 7 parce que je trouve que c'est bien 7.
Ok, moi je vais mettre un petit 8. C'est une note purement affective, en fait. Je considère pas que c'est le meilleur morceau de Jar, mais je trouve vraiment que le travail est encore fou sur le titre, quoi. Et effectivement, ça fait beaucoup penser à Rock It de Herbie Hancock. J'ai aussi beaucoup pensé à Art of Noise en l'écoutant.
Oui, aussi, ouais. Ça,
qui sont aussi des cinglés de Fairlight. Non, peut-être qu'on en parlera un jour. Et voilà, donc ça blippe de partout, la stéréo est mise à rude épreuve, c'est super kiffant, c'est un morceau qui fout le smile, c'est un truc qui fait plaisir, quoi. Donc ça prend 8. On va passer à Blabla Café, et c'est Erwan qui va commencer.
Bah ouais, un peu fun comme titre, un peu moche aussi, je trouve, pas forcément d'une façon très dérangeante, mais les sonorités m'ont l'air là. Consciemment choisi pour leur côté un petit peu vulgaire, je trouve, un peu grossier. Et je l'ai écouté 2-3 fois ce morceau parce que je me suis fait la réflexion au bout d'un moment. Je me suis dit, mais c'est un blues en fait. Enfin, c'est un peu les mêmes intentions qu'un blues. Il y a une espèce de texture un peu cuivrée, qu'un espèce de goût de saxo. Alors, c'est probablement pas du saxo, mais.
Si, je pense que c'est un sax pour le coup, mais.
Eh ben, je trouve que ça ramène vraiment cette couleur de. Ça pourrait être un titre blues un peu bizarre, en tout cas dans la planète dans laquelle on est sur ce disque, pour filer la métaphore de Clément. Pour moi, il y a une maîtrise encore une fois parfaite du spectre, de l'espace, alors que c'est un morceau qui est énormément chargé. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments et ça reste digeste. Donc voilà, c'est pas mon préféré, mais avec une. Dans un registre surprenant, ça me plaît. J'ai mis 6.
Ok, Seb.
Alors là, Blabla Café, on touche le fond. C'est nul, mais c'est nul. Entre la mélodie qui ressemble à un chat pitché qu'on est en train d'égorger et la boucle horrible qui fait jbong jbong derrière, au secours, 0.
Ah oui.
Ah ok, d'accord.
Pierre.
J'aime vraiment beaucoup le synthé du tout début. Ça, on l'entend à peu près 3 secondes, mais ces 3 secondes, c'est vraiment trop bien. Avant que le vieux synthé, que je vais appeler Gérard, parce que j'ai pas trouvé de nomatopée appropriée, il arrive accompagné d'une grosse batterie très lente et des samples de voix à foison, parce que ça reste un morceau de Zulu quand même. Mais du coup, je me demande pourquoi toutes les sonorités de cet album sont pas comme ces trois magiques premières secondes. Et pourquoi tu te retrouves avec Gérard ou le synthé qui fait poing poing. C'est une vraie question. Je me demande vraiment pourquoi, s'il a la possibilité de trouver des sons comme ça, il n'en a pas profité pour aller sur quelque chose de plus abordable au lieu de sonorités qui, pour moi, ne passent pas. Je pense qu'il y avait largement moyen de trouver mieux comme synthé. Là, ça sonne juste pas bien pour moi. Et... ouais, c'est très chargé, le morceau va prendre un joli 2 de pas encouragement.
Ok. Clément.
Après Zoukology, où Jar fait plaisir au public, Blabla Café, c'est là où Jar se fait plaisir. À Jar, fait plaisir à Jar. Donc voilà, c'est beaucoup plus expérimental, même avec une signature rythmique très classique. Oui, tu disais Erwan, côté très très blues, oui, t'as un truc très malaisant, va bluesy, un truc assez indéfinissable, mais et je retrouve aussi du Daft Punk avant l'heure, évidemment, avec un peu de vocodeur derrière, un peu de trituré, tout ça. Et oui, j'aime bien aller dans cette prairie un petit peu plus sombre, un petit peu plus mystérieuse. Donc 8 sur 10.
Ok, moi le morceau va prendre 7. Alors, Erwan, tu disais qu'il avait choisi ses sons exprès pour qu'ils soient moches et tout ça. Et à mon avis, t'as pas tout à fait tort, puisque c'est un morceau qui a échappé de Musique pour Supermarché. Mmh. Et je pense que du coup, ça faisait partie du concept d'avoir des sons un peu cradoc. Donc voilà, moi je la trouve quand même assez marrante avec son sax là. Mais c'est pas un morceau dont je suis fan. Puis je trouve qu'il s'éloigne un peu du concept du disque. Je trouve qu'on retrouve moins ce...
Oui, c'est carrément autre chose.
On est sur autre chose, quoi. Mmh. Donc voilà, mais bon, c'est quand même sympa, donc ça va prendre 7. Et ben, on va parler du dernier morceau de cet album qui s'appelle Ethnicolor 2, et c'est Seb qui va commencer.
Bah, c'est gentil, merci. Il se passe rien. Je me demande si c'est pas mieux que lorsqu'il se passe quelque chose, en fait, hein, cela dit. Mais j'ai pas compris à quoi il servait ce morceau, donc 2 sur 10.
D'accord, Clément.
Ok, qu'est-ce que je peux... comment je vais suivre oui, c'est l'épilogue du disque, un petit peu plus serein, mais aussi plus sombre. Parce que voilà, le futur est incertain, la plaine est glacée. J'aime beaucoup l'utilisation des cordes, un petit peu orchestral. Genre le côté un peu orchestral qu'on ne retrouve pas dans les morceaux précédents. Enfin, orchestral plus tradit, plus cinématique. Et c'est une autre texture qu'on n'a pas retrouvée dans l'album, donc ça c'est bien d'apporter quelque chose au bout de 32, 33, 34 minutes d'album, parce que l'album fait 37 minutes. Et franchement, j'aime beaucoup la fin aussi, tu parles de cette planète, tu décolles, tu vas ailleurs, et c'est très bien, donc 9 sur 10.
Ok, Pierre.
Ouais, en écoutant le morceau pour la première fois, j'ai été étonné de tomber sur un truc qui partait pas en sample de voix répété en boucle jusqu'à la fin du morceau. Ça fait du bien de tomber sur un truc aussi reposant après le reste. Forcément, ça s'appelle Ethnicolor 2, donc je vais le comparer avec le premier. Et même si je l'aime moins, le fait qu'il arrive à la fin, qui sonne un petit peu comme un répit juste après Blabla Café, et une bonne fin pour l'album, ça fait que je l'apprécie vraiment, et je pense que je vais lui mettre 7 sur 10, parce que je trouve que c'est une bonne conclusion en fait pour l'album.
Ok, Erwan.
Bah oui, c'est un morceau de conclusion. Moi je trouve que ça pourrait être la fin de Ethnicolor le premier. Tu colles les deux pistes, ça fonctionne pour moi. Donc j'ai mis 5, pas que je trouve qu'il serve à rien, parce que je trouve ça bien qu'on finisse pas sur Blabla Café et qu'on ait une conclusion. C'est pas un disque qui est excessivement long, c'est le 7ème titre, c'est pas inutile. Enfin, c'est pas à enlever en tout cas, mais on retrouve pas grand chose de particulier par rapport au reste du disque. Donc un 5 sur 10 pour moi, pas grand chose à commenter.
Ok, et bah pour moi ça sera un 8, parce que je trouve que c'est un super morceau d'ambiance un peu étrange, et il est parfait pour sortir, C'est très envoûtant ce qui se passe dedans, je trouve. Et il est parfait pour sortir du disque. Et c'est une belle conclusion. Donc voilà, un petit 8. Et ben voilà, on a fini le disque. Ça a été rapide.
Ouais.
Et puis on va faire un petit bilan. Qui veut commencer?
Tu veux commencer, Erwan?
Je peux. Moi, je trouve que cet album et globalement le travail de Jean-Michel Jarre, par extension, se trouve à la croisée de plein de choses et réussit souvent la combinaison de deux choses que les gens qui se trouvent dans un seul de ces domaines ne réussissent pas à faire. Cette phrase ne veut rien dire, mais on est dans une émission où on, des disques de techniciens branle-bit, on en a écouté quand même.
Oui, oui.
des gens qui font des morceaux juste pour eux, sans penser à l'auditeur, on en a eu. Je trouve que Jean-Michel Jarre, il peut arriver avec cet album-là, qui est quand même l'album d'un gars, c'est son sixième, je crois, donc il doit avoir à peu près 10 ans de carrière au moment où celui-là sort.
Non, à peine.
À peine.
Enfin, 10 ans de carrière officielle en tant que musicien qui s'appelle Jean-Michel Jarre et qui sort des disques. Il avait une carrière bien avant, mais voilà.
Avec déjà un certain succès et d'estime et dans les ventes, hein, parce que c'est pas non plus n'importe qui. Il peut se pointer avec une machine donc qui sont 3,5 à posséder sur Terre, dont 2 qui savent l'utiliser. Des samples de voix donc, qui sont récupérés dans des tribus arborigènes, enfin chez des tribus arborigènes ou dans des peuples qui parlent une langue qui sont les seuls à parler. Et moi, si tu me pitches ça sur le papier, je me dis, ok, le gars fait un album pour lui. En fait, c'est cette crainte-là que j'avais un petit peu en recevant ce disque-là. Et je pense qu'il réussit à combiner le fait de faire un album pour lui, un vrai album de technicien, qui explore. Alors après, on peut débattre de il utilise la machine d'une certaine façon. Aujourd'hui, on ferait les choses vraiment différemment avec d'autres sons, etc. À l'époque, il tourne des potards que personne n'a tourné. Et il arrive à combiner ça, ce plaisir-là, avec des vrais morceaux ouverts. Parce qu'il y a des titres qui sont vraiment ouverts au sens qu'on utilise d'une manière agaçante dans l'industrie musicale pour dire que ça peut passer en radio. Moi, je trouve que tu passes... le troisième titre Zoulouk là ou Zouloukologie en radio, tu peux arriver à faire abstraction du fait qu'on est avec un gars qui est en train de sampler au vocodeur et avec des effets des voix de tribus aborigènes, et ça c'est extraordinaire. Et souvent, alors Seb parlait beaucoup des mélodies pendant le morceau, enfin pendant le débat. Moi, j'ai tendance à découvrir en ce moment, peut-être aussi parce que ça fait partie des choses dans lesquelles je me plonge plus en ce moment dans la composition, mais que dans les compositions de musique électronique, c'est un piège aussi parfois de vouloir être trop mélodique, qu'on appauvrit finalement ce que les textures arrivent déjà à amener, et que finalement, on rend des fois des morceaux plus bêtes en les rendant plus mélodiques. Il est dans la simplicité d'un genre dont il a en partie défini les codes, en tout cas en France, la composition de musique électronique, et il arrive à rendre digeste des choses que je pense personne ne rendrait digeste. Si nous demain on se mettait à se dire ok, venez, on récupère des samples de voix et on fait un album où il y aura un arpège avec des samples de voix, etc., machin. Mais c'est des mois, si ce n'est plusieurs années de travail pour arriver à rendre ces textures là et à rendre quelque chose de vraiment agréable à écouter. Alors après, on rentre dedans, on rentre pas dedans. Y a quand même un public qui rentrait dedans. Le reste de sa carrière est pas toujours plus consensuel. Il y a des morceaux à lui qui font beaucoup plus l'unanimité, mais il a quand même beaucoup de bizarreries dans sa discographie. Tu peux que j'en connais, Jean-Michel Jarre. Il vend quand même 90 000 exemplaires de cet album-là. Il arrive à faire de certains morceaux, de ce que j'ai compris, des habillages d'émissions. Et ça rencontre vraiment un public très large par rapport au projet de départ, je trouve. Et c'est un véritable tour de force, à mes yeux. Donc, c'est ça qui est subjuguant, je trouve, en écoutant Zoulouk. C'est à quel point on trouve le disque audible par rapport au projet de départ. Et moi, je défendrais le fait que ça n'a pas tant vieilli que ça, ni dans les intentions, ni dans la réalisation. Il y a des gens aujourd'hui qui sortent des morceaux avec des synthés beaucoup moins bien foutus que ce projet-là. Donc c'est fantastique. Après, une fois qu'on a dit ça, pour essayer de prendre un recul par rapport à comment j'ai apprécié les morceaux. Moi, il y a une question de registre qui, pour le coup, est liée à l'époque. Je l'ai dit sur 2-3 titres, un choix de registre musical qui, moi, ne me correspond pas. Donc, j'ai pas forcément de gros soucis avec ça. Je trouve aussi qu'il y a... J'aurais aimé, du coup, sentir plus sur l'ensemble du disque l'ambition que je sens sur le premier titre, sur Ethnicolor. Parce que je trouve que... Il y a un décalage entre ce titre de 11 minutes qui est vraiment quasiment un opéra avec certains morceaux qui sont plus fun, qui sont moins intéressants. Donc c'est difficile pour moi de mettre moins de 6 à un album comme ça. Je pourrais lui mettre 7 et en même temps j'ai l'impression que je mets jamais 7. Donc je vais rester peut-être sur un 6 modeste. Mais c'est un disque qui est fascinant, qui peut s'adresser autant aux gens qui font de la musique et qui du coup ont le cerveau un peu corrompu par leurs réflexions sur comment il a fait, comment techniquement il s'y est pris, tout ça, et aux gens qui s'en foutent et qui peuvent écouter Energy toute la journée et kiffer devant Zulukology. Moi je pense vraiment que ça existe, donc c'est prodigieux. Voilà.
Ok, merci. On va changer d'ambiance avec Seb.
Alors la note du disque sera le nombre de mots de la phrase suivante, et je m'excuse par avance auprès de mes collègues de français. Une phrase normalement est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, ce ne sera pas le cas ici. Donc la note du disque sera le nombre de mots de la phrase suivante, 2 points, mais quel enfer.
D'accord, pas plus de développement.
Voilà. Bah écoutez, j'avais pas prévu des développements, mais je peux en improviser un à la suite de ce que Erwan a dit, parce que c'était intéressant ce qu'il a dit, Erwan. Je suis pas d'accord avec lui sur certains trucs. Je suis d'accord avec lui sur plein d'autres, sur la majorité. Je suis pas d'accord, par exemple, quand il dit que c'est le premier à avoir bougé ses potards et que personne l'a fait avant. C'est pas parce qu'on est le premier à bouger les potards qu'on les bouge bien. Hein.
Probablement parce qu'on est le premier qu'on les bouge pas au mieux.
Mais voilà, et moi là je trouve que pour le coup c'est je ne reconnais sur ce disque, et j'insiste bien sur ce disque, aucun talent à Jean-Michel Jarre, mais vraiment aucun. Il y a les mélodies sont pauvres, les ambiances existent, mais elles ne me touchent pas un seul moment. Et d'un point de vue technique, à part le son qui est bon, effectivement le son il est bon, le mix il est bon, mais il y a rien, c'est que du vide, c'est le néant absolu. Je suis d'accord avec Erwan encore quand il dit que le premier morceau a un côté épique et que derrière, eh ben, il n'y a plus rien. Il y a un morceau qui est chouette, c'est le premier. Il a des défauts, le premier morceau. J'en ai parlé, notamment la mélodie qui fait tut-tut. Mais au moins, il se passe quelque chose, quoi. Et dans le reste du disque, excusez-moi, j'ai vraiment de plus en plus de mal à parler, il ne se passe rien. Il se passe rien, et voilà. Et je trouve ça dommage, parce que moi je connaissais Jean-Michel Jarre, je connaissais pas ce disque. Quand on m'a dit chouette, on va faire un Jean-Michel Jarre, j'étais non, vous avez, j'ai ma phrase, il y avait tous les mots, mais pas dans le bon sens. Quand on m'a dit on va faire un Jean-Michel Jarre, j'ai dit chouette, parce que j'étais content, parce que c'est un artiste que j'aime bien. Et j'ai écouté le disque, j'ai dit mais attends, c'est pas possible, j'ai raté un truc. Je l'ai réécouté 2 fois, 3 fois, 4 fois, non. Non, il n'y a rien dans ce disque, c'est que du vide.
Et du coup, tu trouves que Waiting for Cousteau, c'est plus rempli que ça?
Alors, Waiting for Cousteau, il y a un vrai truc dedans, il se passe quelque chose, c'est vide, c'est super atmosphérique, c'est bien fait, les sons sont jolis, ça me transporte vraiment, il se passe quelque chose dans ce disque. Là, il ne se passe rien.
Okay. Ok, Pierre, tiens, vas-y.
Ouais, moi je pense que The Look, c'est pas un album que j'ai découvert au bon moment. Je pense que si je l'avais découvert au moment de sa sortie, j'aurais sûrement trouvé ça beaucoup plus impressionnant. Le problème de cet album pour moi, c'est vraiment les sonorités qui me disent non, toi tu passes pas, tu rentres pas dans le délire, tu sors. Et c'est, je trouve vraiment qu'il y a des idées fabuleuses, mais j'arrive juste pas à rentrer dedans. Ethnicolor, c'est juste magique. C'est justement le morceau où il y a le plus d'ambiance, qui me transporte le plus. Après, j'aime beaucoup, j'aime bien Zulukology et Ethnicolor 2 aussi, mais Les autres morceaux tels que Blabla Café, vraiment, franchement, moi, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et c'est justement celui où vous avez dit, c'est celui-là où il s'est fait plaisir et où il a, c'est celui qui sort un petit peu du concept de l'album. C'est pas un album que je n'apprécie pas, c'est juste un album qui... J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de me voir dans ses rangs. Alors qu'il y a vraiment des endroits que j'adore vraiment, vraiment. La partie guitare-batterie sur Diva, c'est fantastique, mais la plupart du temps, je suis juste perplexe avec des sonorités que j'arrive pas à comprendre. Et je pense qu'il y a un facteur temporel de découverte aussi qui joue là-dessus. Si je l'avais découvert plus tôt, peut-être que j'aurais beaucoup plus apprécié, quoi.
Moi, je suis assez persuadé que JP l'aime parce qu'il l'a découvert à l'époque. C'est pas possible. Ça ressemble pas au JP qu'on connaît qui a passé des albums. Il a passé des albums entiers sur Woodkid à nous dire on attend que ça commence et là il l'aime. Non, il y a un problème.
Non. T'avais fini, Pierre, du coup? T'as pas mis ta note, du coup?
Non, j'ai pas mis ma note. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, donc c'est pas grave. Je pense que Zoulouk, en vrai... ouais, il y a vraiment des moments que j'adore beaucoup et je serai reconnaissant envers ce disque pour ce moment. Donc, allez, 6, vas-y, c'est pas grave. Je me fais déshériter ce soir, mais c'est pas grave.
Ok. Oh,
t'as le droit.
Clément.
Alors, Zoulouk, Jar commence avec Oxygène, premier album studio, troisième. Techniquement, c'est son troisième, mais le premier vrai succès, c'est Oxygène. Et comme l'a dit Arwan... Et comme l'a dit aussi Pierre, c'est qu'il y a des mélodies chantables. Tu te souviens, genre par exemple, Oxygène, tu peux faire ta ta la ta 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 la na na. Et là, je peux faire genre ta 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 ta. Tu sais, genre Zoolocology, j'adore. C'est... En fait, d'Oxygène à Zoolocology, t'as Jar qui progresse vers. En fait, c'est deux pics. En fait, t'as Oxygène et Zoolook. Entre les deux, t'as un truc, mais tu sais qu'il veut aller vers Zoolook. C'est peut-être pas assez précis mon terme, mais
pour c'est une progression logique.
Voilà,
quoi.
Logique, voilà, c'est exactement. Et donc, il a fait aussi donc Canal+, et il a fait aussi l'identité sonore de France Info. Donc tout ce que vous entendez depuis 2013, 2014, 2015, quand France Info a été lancée à la télé, c'est lui qui a fait tous les jingles, tous les push, tous les machins. Et c'est quand même assez fort de demander à un musicien d'attraper l'oreille de quelqu'un très simplement. Et Jar, il arrive à le faire ça sur Oxygène, il arrive à faire ça sur Zoolook, il arrive à faire ça sur France Info. Et ça, c'est quand même, comme disait Erwan, un tour de force. Et l'un des albums de chevet de Jean-Michel Jarre étant Who's Next des Who, qui est sorti en 1971. Et la progression, évidemment, est logique par rapport à ça. Il y a d'ailleurs cette référence est dans un reportage de Jean-Michel Jarre. Je crois qu'il est dans une bibliothèque à l'INA ou genre à Radio France où il détaille toutes ses influences. Et il est dans une discothèque et là il dit ah ça j'aime ça, ça j'aime ça, ah ça c'est pour ça que je fais du synthé. Ah j'ai travaillé avec Christophe parce que voilà il a travaillé avec Christophe, Patrick Juvet. Le mec c'est un rocker mais il a des oripeaux de musicien électronique. Et il a influencé tellement de monde que voilà, ça c'est pour moi c'est un chef-d'œuvre Zoolook. Un petit peu moins qu'Oxygène évidemment parce qu'il vient mais vient après, mais pour moi en 84 c'est ça sonne frais, ça sonne contemporain. Et même voilà, comme disait Erwan aussi encore tout à l'heure, tu peux mettre ça sur Énergie ou une radio aujourd'hui, tu passes un bon moment. Et ça c'est tout but d'un musicien, de faire passer un bon moment au public. Donc pour moi c'est 9/10.
Ok. Bon, vous avez à peu près tout dit. Alors, le seul truc, c'est que je comprends pas que Seb comprend pas qu'il y a du travail sur ce disque parce qu'il y en a énormément et ça s'entend. Enfin, je veux dire, le travail de construction de découpage, de mixage est juste phénoménal.
Et la production aussi est incroyable, évidemment. Voilà.
C'est
oui,
un disque...
Oui, c'est tout, mais il n'y a pas de travail de composition, quoi.
Ah bah si, justement. Si, justement, le but du jeu, c'est de composer avec ces sons-là pour en faire autre chose. Donc c'est un travail de composition.
Il a pris des sons random et il
non,
les a
non, il les a pas pris random, son. Justement, ils sont construits, ces sons. Si tu les mets vraiment random, ça va ressembler à rien. Et
c'est complètement contradictoire avec ce qu'on a dit depuis le début. Il est connu pour prendre des synthés et les utiliser comme ça, sans travailler ses presets.
Pas tout.
Là, pour
pas
moi,
tout.
Pour moi, c'est pareil. Quoi. Il a pris le premier son qu'il a trouvé dans un Fairlight, il l'a samplé, il a fait piou-piou-piou-piou. Putain, c'est... Non. Non, pour moi vraiment, c'est juste une arnaque. C'est juste une arnaque.
Bon, pour moi, c'est le meilleur album de Jarre. Devant Oxygène, devant Equinox, je trouve que c'est le disque qui a vraiment rebattu les cartes en termes de sampling. Enfin, je veux dire, sans ça, il y a plein de musiciens qui n'auraient rien pu faire derrière, quoi. Enfin, il a vraiment ouvert la voie. Il a fait un disque qui est unique dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il n'y a que celui-là qui ressemble à ça. Et autant des fois, tu peux retrouver des choses. Enfin, les premiers albums, ils étaient novateurs pour un public néophyte français, mais en fait, c'était de la musique qui ressemblait beaucoup à de la musique de l'école berlinoise de musique électronique. Donc, sur le coup, il n'inventait pas grand-chose. Il l'apportait au public. Il en faisait quelque chose de très accessible alors que c'était quelque chose de compliqué. Il avait cette force-là sur ses premiers disques. Avec celui-là, il apportait vraiment une pierre à l'édifice, je trouve, musicalement. Et la voix du Fairlight et du sampling, après, tu vas les retrouver chez Frankie Goes to Hollywood, chez Art of Noise, chez plein de gens. Et plein de musiciens ont suivi le truc. Effectivement, c'était dans l'air du temps aussi. Hein. Il y avait Herbie Hancock, effectivement, qui sortait ça. Donc pour moi, c'était vraiment, c'est vraiment un disque important dans la musique. Je pense que dans la musique électronique, c'est un disque qui se passe un peu aussi. Je pense que les mecs connaissent ce disque. parce que puis en plus, en termes de son, c'est juste dingue le son qu'il a, quoi. On peut ne pas aimer les sons de clavier. On peut trouver qu'ils ont un peu vieilli. En même temps, ils ont 40 ans maintenant. Oui, effectivement, ça peut avoir vieilli. Mais par contre, en termes de son, ça sonne du feu de Dieu. C'est un album qui est relativement court, qui est assez cohérent. Moi, je le trouve vraiment fabuleux. Je pense qu'il n'a jamais fait mieux depuis. Pour moi, c'est un 9 en note, parce que vraiment, pour moi, c'est un très grand disque. Et j'espère que les auditeurs prendront l'opportunité de cette émission pour le découvrir en entier et qu'on vous aura donné envie d'écouter ça. Merci à tous d'être
merci JP
d'être merci, venu JP. Pour merci. Parler de ce disque. On
merci.
Se retrouve.
Tu restes une énigme pour moi.
On se retrouve dans 15 jours et je redonnerai les clés à Clément du coup pour dans 15 jours.
Ouais, parce qu'on va faire donc l'épisode 97 sur The Seeds of Love qui a été suggéré par Matak sur Patreon. Donc,
On paye, je vais peut-être devoir venir.
Voilà, peut-être.
c'est un très beau disque. Si tu connais pas, moi aussi tu dois connaître quand même.
Oui.
En vrai, non. Mais c'est pas grave, ça m'a jamais empêché d'en parler.
Donc je crois qu'il date de, il date de 1989 et voilà. Donc,
89, 90
89.
Alors, 89, petite pause pub d'ailleurs, il y a un épisode de La Porte d'Entrée consacré à Tears for Fears, on en parle déjà dans cet épisode-là,
voilà.
Mais on reviendra spécifiquement sur ce disque-là dans 15 jours.
Voilà, et vous nous écoutez sur Spotify, Ocha, Apple Podcast, Patreon, on embrasse Tim, Walter, Loïs qui n'a pas pu venir parce que problème technique.
Il n'a plus l'outil web.
Voilà. Et Luc, et du coup, on vous fait des bisous et à dans 15 jours. Bisous, bisous.
Salut. Ciao, ciao.
Salut. Bisous. À travers les époques. Je suis attaché à la logique. Bye.
je n'aime pas que mon inspiration soit uniquement liée à aujourd'hui.
Bizarre.